Shalom tout le monde. Il me semble que nous avons étudié la dernière fois la 19e bénédiction de Shmona Esrei, et donc, si cela est exact, cela veut dire que nous avons fini la Amida. Hein? Tu me sembles fournir là la preuve que tu n'étais pas au dernier cours, ou bien que tu as oublié, ce qui m'est difficile à croire. Et donc, étant donné que nous avons terminé le Shmona Esrei, j'aimerais que nous passions sur le contenu du Sidour dans son ensemble. À vous rappeler qu'on avait étudié dans les introductions à la Tefila que la prière est possible. Vous rappelez qu'on avait étudié la Mishnah de En Omdin Leit Balel. Vous êtes en train de me convaincre que je suis un mauvais enseignant, et donc il serait mieux que je renonce à... Comment ? La question était, est-ce que vous vous rappelez que nous avons étudié une Mishnah qui nous parle des préparatifs de la Tefila ?
Bien sûr.
Ah. Tu as sauvé ma carrière d'enseignant, à ce moment même, parce que sinon je serais entré dans un breakdown tel que je me dirais qu'il vaudrait mieux que j'arrête d'enseigner. Bon. En tout cas, donc nous avons... vu la Mishnah dans Maseret Berachot qui nous explique que l'introduction à la prière se fait par, après tout un débat de la Gemara assez ardu, c'est une conjugaison de deux expériences contradictoires qui sont la crainte et la joie. Très bien, effectivement. La crainte et la joie. Hein ? Oui, non, ça va, non, j'ai récupéré, ça va. Je suis rassuré, j'ai récupéré, ça va. Bon, alors maintenant, donc, il y a une conjugaison de la crainte et de la joie. Maintenant, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde de faire cette conjugaison. C'est pour cela qu'il y a dans l'ordre du Sidour tout un travail qui est fait. On commence par les corbanotes. C'est pour créer le sentiment, l'expérience de la crainte. C'est-à-dire que le corban veille à ce qu'il n'y ait pas, disons, de détérioration du monde. C'est une crainte. Puis après viennent les Pesukeh des Imra, les psaumes du roi David, dans lesquels se développe en nous la joie. Et alors intervient le Kriyat Shema, la lecture du Shema, qui permet l'unité des deux expériences, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, et à partir de là, la prière devient possible. Vous vous rappelez de tout ça ? Hein ? La Ketoret, ça fait partie des Korbanot. Ça n'existe pas qu'on ne fait pas. Tous ceux qui relèvent du judaïsme dit orthodoxe font les Korbanot. Maintenant, il y a de ce point de vue-là une différence entre nos frères séfarades et nos frères ashkénazes. Nos frères séfarades sont suspects. C'est-à-dire que le problème de nos frères séfarades, c'est qu'ils risquent de ne pas dire les Korbanot. Alors on les contraint à le faire à la synagogue. C'est pour ça que dans le service synagogal séfarade, les corbanotes sont récités à la synagogue. Tandis que nos frères ashkénazes, eux, sont beaucoup plus fiables, donc on leur fait confiance qu'ils l'ont dit à la maison. Pourquoi ça ne serait pas obligatoire les corbanotes ? Il faut dire les corbanotes. Et donc, comme les ashkénazes sont très sérieux, nous savons qu'ils l'ont fait à la synagogue. Qui l'ont fait chez eux à la maison, et donc ils n'ont pas besoin qu'on les oblige à la synagogue à le faire. Voilà, c'est tout simple. D'ailleurs, le Hodou, qui est récité au début des Psukeh des Imra, ne fait pas partie en vérité des Psukeh des Imra, il est le complément du Korban Atamid. Parce que quand on présentait le Korban Atamid, le sacrifice journalier, alors on récitait ce psaume-là, le Hodou, l'Hachem, Kiru, Bishmo, etc. Et donc... c'est fini, hein ? Bon. Et donc... ça, vous vous rappelez de tout ça, on avait étudié comment ça fonctionne. Ça passe donc de la crainte à la joie, après à l'unité, et après à la prière. Chez les kabbalistes, il y a de cela une ascension qui lie à cela. On commence par le monde le plus bas, qu'on appelle le monde de la fabrication, Olam HaAsiya. Et après, ça c'est dans les korbanot. C'est-à-dire que dans les korbanot, on s'occupe de purifier le monde de son impureté, le monde le plus bas. Après, on arrive à un monde d'harmonie, le monde de la formation, en hébreu, Olam HaYetzira, dans lequel il y a une atmosphère angélique, celle où les anges se manifestent, entretiennent des dialogues entre eux. Ça, on en a la préscience quand on voit beauté de la nature. Et c'est ça dont parlent les psukim des Imra. Après, on arrive au monde qu'on appelle le monde de la création, Olam Beria, qui correspond à la lecture du schéma. C'est une ascension. Si on fait vraiment le travail comme il faut, alors on sent l'ascension de l'âme dans ces différents mondes. Et puis après, on arrive au monde de la proximité, Atzilut, être auprès de moi. En hébreu, ça se dit Etzli. Donc Atzilut veut dire proximité. C'est une des significations du mot Atzilut. Ce qui se passe dans la Amida. Chez les kabbalistes, la répétition de la Amida est considérée comme un niveau encore plus supérieur, c'est le monde du Keter, le monde de la couronne, et puis après on redescend dans la lecture de la Torah, qui est après la prière, on lit, on arrive à Beria, puis après dans Ashrei Uvalet Zion et Shir Shel Yom, le psaume journalier, on arrive au Olam Ha'Yetzira, puis après il y a à nouveau un peu de Korbanot et Alenu Leshabeach, on se retrouve dans Olam Ha'Asiya. Voilà. Il me semble, du fait que tu as levé le doigt, que tu as une question. Oui, de quoi s'agit-il, Charlie ?
Mais non, mais je suis pas là. Si j'oublie quelque chose, ça va pas empêcher d'aller.
Alors, c'est pour ça que pour les kabbalistes, l'ordre de la prière est très important. N'est-ce pas ? Bon, oui ? Oui. Alors, pour Mincha, il y a chez nos frères Sépharad et chez les Chassidim, on récite un psaume. N'est-ce pas? Non, d'abord il y a Ashrei. Mais avant Ashrei, il y a le Korban HaTamid et le Ketoret. C'est-à-dire qu'on reprend ça, mais il n'y a pas le schéma. Dans Arvit, il y a le schéma, mais il n'y a pas, ni de Korbanot, ni de psaume. Alors c'est une des raisons pour lesquelles on a la coutume de coller Mincha à Arvit pour compléter ça. Comment? Oui, Shacharit, ça prend plus de temps. Mais parce que Shacharit, c'est le point de départ. C'est-à-dire, il faut démarrer. Démarrer, ça prend du temps. C'est ça ? Ouais, on est déjà en route, le starter a marché, etc. Alors, ça va. D'accord ? C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que c'est vrai qu'il y a une marloquette dans la Gemara pour savoir quelle est la prière la plus importante, mais il est vrai que les kabbalistes mettent un accent particulier sur Shacharit. Bon, enfin donc pour revenir à nos moutons, des moutons des Corbanotes justement, je voudrais que nous fassions une petite étude du Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, ce n'est pas une prière, vous le savez, le Shema, ce n'est pas une prière. C'est de la Torah. C'est-à-dire, à la différence de la prière qui est un retour du bas vers le haut, le Shema, c'est une lecture de la Torah, ça fait partie de l'étude, et ça se passe donc de haut en bas. On se met à étudier, on récite, c'est une forme d'étude. Un passage de la Torah, c'est une étude. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, si on a fait le schéma, on s'est acquitté du devoir de l'étude de la Torah. C'est pour ça, par exemple, que la bénédiction que l'on récite juste avant le schéma, qui finit par « Abocher Bamo Israël Be'ahava », peut prendre la place de la bénédiction sur la Torah. Si quelqu'un, par exemple, a oublié de faire Birkat HaTorah, et qu'il s'en souvient quand il a déjà commencé la prière, qu'il a déjà commencé la lecture du Sidour, quand il arrive à Ahavat Olam ou à Ahavat Rabba, il doit considérer cette bracha comme le remplacement de Birkat HaTorah. Si c'est cette kavana, il est acquitté de la Birkat HaTorah. Et donc, c'est un moment de l'étude. Alors maintenant, que signifie cette étude? Pourquoi c'est si central? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je voudrais commencer aujourd'hui d'abord par l'étude du verset qui ouvre la lecture du schéma. Vous savez qu'il y a toute une marloquette chez les Tanaïm pour savoir quelle est la partie du schéma qui est Mina Torah et quelle est Midera Banan. Alors, d'après toutes les autres... Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais quel est mon devoir du point de vue de la Torah? Qu'est-ce que je dois réciter tous les jours? Est-ce que je dois tous les jours réciter tout le Tanakh, par exemple? Non. Alors, quel est le minimum du point de vue de la Torah? Et, par exemple, l'opinion de Rabbi Yehuda Hanassi, qui n'est pas là à la Kham, mais elle est quand même l'opinion de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est que c'est le premier verset seulement. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que le premier verset de Shema Israël est celui qui nécessite le plus de kavana, au peut-être point même que la halakha dit que si on n'a pas eu la kavana dans le premier verset, il faut reprendre le schéma Israël. N'est-ce pas? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est un verset d'une phrase, c'est si difficile que ça. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que par exemple chez nos frères les Ashkenaz, on voit qu'au moment où on arrive au premier verset du schéma, il y a un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt, genre concentration, on fait comme s'il y avait de la concentration, et puis on fait le premier verset du schéma. Alors, c'est pour ça que je vais rentrer dans le détail de ce que signifie ce verset. Shema Israël, Hashem Elenu, Hashem Echad. Un verset très difficile à comprendre, ne serait-ce que du point de vue de la syntaxe. C'est pas très clair ce que ça veut dire. Alors, on va essayer de traduire, n'est-ce pas? Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Écoute, ou entend, ou comprend, Israël, Hashem qui est notre Dieu, Hashem est un. Moi, j'aurais pas écrit comme ça de toute manière. J'aurais dit Hashem Elohenu, Echad. La deuxième fois où il apparaît le mot Yudke Vavke, ça a l'air en trop, de toute manière. Et puis, c'est quoi cette histoire de Shema Israël? Qui est cet Israël auquel je m'adresse? C'est pas très clair non plus. Enfin, avant de rentrer dans le schéma Israël, je sais que le schéma Israël, c'est deux mots très difficiles à comprendre. Je voudrais d'abord comprendre le Hashem Elohenu. D'accord? On va commencer par le milieu. Oui, quoi?
Il faut le replacer dans le contexte.
Hein?
Il faut le replacer dans le contexte par rapport à Yaakov Avinu.
Alors tu dis que c'est pour remettre ça dans le contexte de Yaakov Avinu. Pourquoi tu dis ça alors que c'est un verset dans Devarim qui est prononcé par Moshe? Je veux bien, mais ça c'est la tradition orale. Mais la première fois que ça apparaît dans la Torah, c'est dans le discours de Moshe. Ça a certainement une autre signification que chez Yaakov. N'est-ce pas? Quoi? Tiens, c'est marrant ça. Je m'en rendais pas compte. Bon, en tout cas, donc. Alors, je voudrais d'abord parler du milieu. D'accord? Après, on rentrera dans le contexte avec Shema Israël. Je sais que c'est plus compliqué. Mais d'abord, que veut dire le Hashem Elohenu? Alors, dans Hashem Elohenu, vous avez deux mots, Hashem et Elohenu. Alors, je voudrais m'arrêter sur le mot Elohenu. D'accord? Je concentre de plus en plus. Que nous dit Rashi? Rashi dit, Hashem Shehu Elohenu, Dieu qui est notre Dieu, Velo Elohe Ahumot, il n'est pas le Dieu des nations. Hashem Echad sera un jour un Dieu un pour tout le monde. Alors, c'est extrêmement curieux parce que ce verset qui semblerait une profession de foi monothéiste, c'est-à-dire, quand est-ce que les Juifs parlent de leur monothéisme? C'est très simple, quand ils disent le schéma Israël. Eh bien, qu'est-ce que nous dit Rashi? Ce verset n'est pas monothéiste, justement. C'est un verset polythéiste. Il dit, l'Éternel, qui est notre Dieu et pas le Dieu des nations, sera un jour le Dieu de tout le monde. Hashem Shu Elohenu, Velo Elohe Haumot, Atid Lihiot, Hashem Echad. Et alors, Rashi amène deux versets pour ça, un de Zecharia et un de Tsefania. Le verset de Tsefania, c'est Bayom, non. C'est alors que je transformerai la parole de nombreuses nations pour qu'ils invoquent tous le nom de Dieu et le servent d'une seule épaule, Shechem Echad. Et après, Rashi amène un deuxième verset, c'est dans Zecharia, en ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un. D'accord? Donc pour Rashi, il y a une dynamique historique. Mais ça veut dire quoi dans le présent? Hashem Elohenu, Velo Elohe Ahumot, l'Éternel qui est notre Dieu et pas le Dieu des Goïm. La question immédiate qui se pose, alors qui est le Dieu des Goïm maintenant? N'est-ce pas? Vous avez compris la question? C'est-à-dire, si Hashem est notre Dieu et pas le Dieu des Goïm, alors qui est le Dieu des Goïm? Oui, vas-y. Oui, il y a une différence entre les Juifs et les Goïm, ça on sait. Mais le chidouche de Rashi, c'est que Akadosh Baruch Hu, Hachem n'est pas le dieu des Goïm. Alors ils en ont pas. Alors ça voudrait dire que. Ah, alors là c'est une forme rationalisante de ce que dit Rashi. Alors, il y a, dans les commentateurs de Rashi, nous avons deux opinions, celle du Re'em et celle du Gourarié. Le Re'em, Rabbi Yahou Mizrahi, et l'autre Gourarié, c'est le Maharal de Prague, qui discutent de savoir qu'est-ce que veut dire Rashi. Alors, je ne me rappelle plus qui dit quoi. Je crois que c'est le Re'em qui dit que si Rashi dit que Hachem n'est pas le dieu des Goïm, ça veut dire que le dieu des Goïm, ce sont les Sarim. Sarim. Sarim, ça veut dire les anges tutélaires des nations. C'est-à-dire qu'il y aurait une manière des Goïm d'approcher la divinité à travers leurs anges à eux. Ce qu'on appelle les Sarim, ce qui explique le phénomène du chitouf, le fait de l'association. Le fait que les Goïm associent dans leur approche du divin leur divinité à eux. C'est ce qu'on appelle chez nous de la avoda zara. Que veut dire avoda zara? Avoda zara, ça veut dire... Non, je vais vous dire exactement ce que ça veut dire. Je vais vous le dire en hébreu d'abord. Avodat Hashem Zara, c'est-à-dire c'est le service d'Hashem de manière étrangère. C'est-à-dire le Dieu qui est servi par les Ovdei Avodah Zara, c'est le même que le nôtre, mais c'est fait d'une manière étrangère. Parce que ça passe par leur sarim, par la perception qu'ils ont de la divinité, qui est fragmentaire, et donc ça donne un culte idolâtre. De notre point de vue, c'est de l'idolâtrie, c'est abominable, mais de leur point de vue, c'est leur manière de connaître Hashem. C'est pour ça, par exemple, que le prophète Malachi dit une phrase absolument incroyable. Vous connaissez le prophète Malachi, non? Bien sûr, vous ne le connaissez pas personnellement. Non, je ne pense pas parce qu'il est décédé il y a longtemps, mais enfin, le prophète Malachi écrit « Kimi Mizrach Shemesh Vad Nevo » car depuis le lever du soleil et jusqu'à son couchant, du levant du soleil jusqu'au couchant, « Gadol Shemi Bagoyim » mon nom est grand parmi les nations, Uvchol makom, et dans tout lieu, Muktar Mugash Lishmi, il est présenté devant moi, Umincha Teora, des offrandes pures, Kigadol Shemi Bagoim, car grand est mon nom parmi les nations, Amar Hashem Tsevaot, dit l'Éternel des armées. Ve'atem Mechaleli Moto, quant à vous, vous le profanez. Alors, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire, à l'époque du prophète Malachi, toutes les nations étaient idolâtres. Et qu'est-ce que dit le prophète? Dans le monde entier, on sert Dieu. Il n'y a qu'en Israël qu'on ne le fait pas. C'est incroyable. Ça veut dire que le prophète nous explique que dans le culte polythéiste, il y a une relation au créateur du monde, ce qu'on appelle le Dieu des dieux, mais ils le font de manière, disons, tordue. Bon. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. D'après le Maharal de Prague, l'intention de Rashi n'est pas celle-là. L'intention de Rashi dit que puisque un jour viendra où les sarim seront déchus, mais ça veut donc dire que maintenant et déjà ils le sont. C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement, si vous voulez, de l'avenir sur le présent. Bon, alors il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, ce que veut dire le schéma Israël, Hashem et le Noéchad, que nous récitons plusieurs fois par jour, d'après Rashi, c'est une déclaration non pas d'une foi, mais d'une intention de dynamique historique. C'est-à-dire, nous affirmons tous les jours que viendra un jour où il y aura abolition des cultes étrangers, et donc peut-être même des forces métaphysiques que sont les sarim, pour qu'un jour Dieu devienne un. Et vous voyez que dans l'interprétation de Rashi, c'est orienté vers l'avenir. Hashem et nous, Hashem, un jour sera Echad. C'est très important de comprendre ça. Ça veut donc dire que cette déclaration que nous faisons tous les jours nous invite à une action. Une action par rapport à l'humanité. Par exemple, la diffusion du noachisme. Vous avez entendu parler du noachisme, peut-être? Bon. Hein? Il y a un arabe du Mahon Mir qui s'en occupe. C'est vrai, tiens, c'est vrai. Ouais, ça va. Là, c'est comme... Non, hein. Bon, il y a des coïncidences. En tout cas, ça a un rapport avec donc, le schéma Israël.
C'est-à-dire, à ce moment-là, Abel Noir n'est pas obtenu avec les arabes, donc il est...
Oui, le Ben Noir appartient d'une certaine manière à l'avenir. Oui.
D'accord, mais il a ce statut de Goy. C'est pas le dieu des...
Non, c'est pas si simple du tout ce que tu dis là. Est-ce que le Ben Noir reste dans le statut du Goy? Le Rambam fait une distinction entre Ben Noir et Goy.
Donc quand on dit justement c'est pas le dieu des Goyim, donc il rentre pas dans cette catégorie.
Rachidi, velo Eloéa Umot. Il n'est pas le dieu des nations. Mais d'un individu, il peut l'être. Et c'est-à-dire que tout le problème, c'est qu'au niveau collectif, les nations ne reconnaissent pas Hachem. D'accord? Bon, mais vous savez, par exemple, il y a dans la tradition moyenâgeuse en Europe, il y a eu ce qu'on appelait les archanges des nations. Par exemple, les Français ont un ange tutélaire, Saint-Michel. N'est-ce pas? Alors, c'est vrai que c'est un saint pour eux, mais c'est Michael, c'est l'ange Michael finalement. Ils reconnaissent là-dedans quelque chose. D'accord? Il y aurait beaucoup à dire sur les caricatures nationales. Vous savez que dans les journaux, on fait des caricatures. Et les caricatures représentent parfois des peuples. L'oncle Sam, n'est-ce pas? L'oncle Sam, c'est une représentation caricaturale de l'Amérique. Ça représente un idéal, disons, un subconscient collectif. C'est pour ça, d'ailleurs, que chez les kabbalistes, l'ange tutélaire de Edom, c'est Sam. C'est écrit en toutes lettres chez les kabbalistes, sa mère même. Mais enfin, bon, revenons à nos. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te semble bizarre? Bon, il y a des phénomènes spirituels dans l'humanité, ça existe. Hein. Bon, il y a d'ailleurs une ville en France, dans le sud de la France, qui s'appelle quelque chose de. Comment? Léger. Non, Lourdes, c'est ça. Oui. Et. Oui, bon, c'est trop facile. Dans les Lourdes, il y a ce qu'on appelle des miracles. Il y a des gens qui viennent, boiteux, etc. Ils ressortent, ils marchent. D'accord? Hein? Ouais, des tas de choses comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Alors, bah, ça dépend. Bon, il y a énormément de charlatanisme, il y a également les faits collectifs, etc. Mais il se passe des choses, peut-être. C'est pas impossible. Parce que, Kwaratuma, alors ça veut dire quoi? C'est quoi le Kwaratuma? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé ou pas? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de tout le monde. Alors, il s'occupe de tout le monde, par leur voix, d'accord? Parfois, c'est des voix, justement, un peu lourdes, et c'était pour toi, ça. Bon, alors, on peut revenir au schéma Israël. Donc, la première interprétation, celle de Rashi, qui nous explique que c'est une dynamique historique. Il y a, par exemple, l'enseignement du Rambam. Le Rambam amène ce verset dans le début du Mishneh Torah. Et là-bas, le Rambam nous explique quels sont les fondements de la Emouna. Le premier fondement, c'est l'existence de Dieu. Yesod à Yesodot, Amud à Chochmot. Le fondement de toute sagesse, c'est de savoir qu'il y a un seul être qui est à l'origine de tout. Bon. Et après, le Rambam nous dit, c'est une mitzvah de le savoir. Yidiat davarze, la connaissance de cette idée, mitzvah assé, est un commandement positif. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit. Alors, où est le verset où le Rambam a trouvé qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous en avez déjà enlevé deux, trois. Bon, non plus. Il ne vous reste plus beaucoup de versets maintenant. Anochi Hashem Elohecha. Rambam dit, chez Neymar, ainsi qu'il est dit, Anochi Hashem Elohecha, je suis l'éternel ton Dieu. Point. Maintenant, bon, je sais que ça pose beaucoup de problèmes. Vous n'êtes pas les premiers à vous poser des questions là-dessus. Les commentateurs déjà ont des remarques, etc. Enfin, c'est ce que dit le Rambam. Anochi Hashem Elohecha, je suis l'éternel ton Dieu. Qu'est-ce qui manque dans la citation? Asher Otsetiram, Mirespitsraim et Avadim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Le Rambam ne cite que la première partie du verset. Continuons après. Le Rambam après nous dit, il faut que tu saches que ce créateur est unique. Il nous explique très longuement ce que ça veut dire unique. Et après il nous dit, et la connaissance de cela est un commandement positif. Chez Néhémar, ainsi qu'il est dit, alors il amène un verset pour nous prouver que Dieu est un. C'est lequel? Non? Presque, vous y êtes presque. Il cite chez Néhémar, ainsi qu'il est dit, Hashem Eloheinu Hashem Echad. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Deux remarques. Tout d'abord, le Rambam ne pense pas comme Rashi. C'est-à-dire pour Rambam, c'est une vérité, disons, constante. À part ça, qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Il a tronqué le verset. Il n'a pas dit les deux premiers mots. Il n'a pas dit les mots Shema Israël. Rambam nous dit, ce Dieu est unique, ainsi qu'il est dit, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Le Rambam n'a pas dit les deux premiers mots. À nouveau, pour le Rambam, ce qui est supprimé, c'est le contexte historique dans lequel se sont révélées ces connaissances. C'est-à-dire, qui t'est fait sortir du pays d'Égypte, et donc tu connais mon existence, Shema Israël, tout ça c'est le cadre historique dans lequel ces connaissances sont connues, mais les connaissances sont elles-mêmes des vérités immuables et éternelles. D'accord? C'est-à-dire, ça correspond tout à fait, disons, à l'idée du Rambam, que l'histoire n'est pas l'essentiel. Tandis que pour Rashi, vous voyez que l'histoire, c'est l'essentiel. Dans quel passage que dans Devarim, c'est Shema Israël? Ben, c'est le dans le chapitre Vav, verset Dalet. Quel est le problème? Oui, non, c'est simple. Vav, Dalet. Non, c'est très bien. J'adore. Bon. Et donc, quoi? C'est fini, là? Les remarques. C'est vraiment désagréable. Non, ça va. Maintenant, le problème, c'est que c'est vrai que le Rambam, quand il veut parler des vérités métaphysiques, il est, sort du contexte historique. Mais dans la Torah, ça paraît dans un contexte historique. Non seulement c'est comme ça, même le Rambam pense que du point de vue de la halakha, quand je fais la lecture du schéma, je dois dire les deux premiers mots. C'est-à-dire, si j'ai commencé la lecture du schéma par le troisième mot, Hachem, Eloheinu Hachem Echad, je ne suis pas acquitté de mon devoir. Ça veut dire que la mitzvah de lire le schéma réinsère une connaissance absolue dans le contexte historique. C'est-à-dire, je dois savoir à travers quelle nation ça se manifeste, le fait que Dieu est un. Ça se manifeste à travers Israël. Alors maintenant, le problème est de savoir qu'est-ce qu'on entend par le mot Israël. D'accord ? Nous avons déjà parlé de Eloheinu, et maintenant nous avons parlé de Israël. Schéma Israël. De qui parle-t-on quand on parle d'Israël ? Quoi qu'il y a ? D'abord, tout d'abord, sur le plan historique, quand est-ce que ce verset a été prononcé ? Alors, il y a une tradition orale qui dit que ça a été dit par les Shevatim. C'est-à-dire, les enfants de Yaakov se réunissent autour de son lit de mort, et au moment où Yaakov a parlé, la Shekhina s'en va. Alors, Yaakov, très en... Comment ? Il va parler, le rabbi Jacob, elle va parler. Et donc, quand Yaakov Avinu, il voulait parler, à ce moment-là, la Shekhina est partie. Comment ? C'est pas exactement comme ça que c'est dit. J'ai donné un cours en hébreu là-dessus cette semaine, dimanche. Tu verras que c'est pas exactement comme ça. Mais enfin, en tout cas, Yaakov voulait dire quelque chose. Ses enfants se sont réunis et la Shekhina est partie. Alors, vous comprenez comment ça a été compris par Yaakov. Il dit, tiens, c'est embêtant. Je leur ai dit de venir. Ils sont tous là et la Shekhina est partie. Mettez-vous à sa place. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a fait partir la Shekhina. Il y en a au moins un. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un des enfants qui n'est pas digne d'être Israël. Et donc, il est très embêté parce qu'il se dit, alors dans ce cas-là, l'époque des patriarches n'est pas encore finie. C'est-à-dire le tri qu'on faisait entre Abraham et Lot, Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav, ah, ça continue. Ils pensaient avoir fondé le clan et puis brusquement, tac, ils sont tous là, la Shekhina s'en va. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait partir. Alors, il y aurait... À qui pensait-il précisément ? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et la tradition nous dit que les Shevatim ont compris que c'était le souci de Yaakov. Alors, pour le rassurer, ils lui ont dit « Shema Israël, écoute Israël. » Et qui c'est Israël là-bas ? C'est Yaakov, Israël notre père. « Hachem Elenu Hachem Echad » et la Gemara de dire « De même que tu n'as dans ton cœur que l'unité, nous avons dans nos cœurs à nous que l'unité. » Et c'est alors que Yaakov, tout content, répond Baruch Shem Kevod Makoto Lolam Vaï. C'est une manière de dire Baruch Hashem. Que veut dire cette phrase ? Alors il y a tout un débat dans le Maharal et dans le Parah d'Yitzhak autour de ça. Mais ça veut dire qu'au début, dans l'histoire, l'affirmation Shema Israël qui était adressée à Yaakov venait dire que tous les Hébreux sont Israël. C'est-à-dire que nous avons appris de là une chose très importante. Tous les Juifs sont juifs. Même les religieux, et même, comme disait Manitou, les juifs enrhumés. Tout le monde fait partie d'Israël. C'était disons, sur le plan historique, c'était ça le premier souci, de savoir qui fait partie de l'Alliance. Eh bien, la réponse, c'est tout le monde. Oui, vas-y. Ça a commencé à ce moment-là. Ah oui. Maintenant, c'est-à-dire que, mais il faudrait savoir, est-ce qu'il y a. Parce que tout le débat entre Yosef et ses frères, c'est de savoir s'il fallait faire un tri ou pas. Et la réconciliation de Yosef et de ses frères, c'était qu'il ne faut pas faire de tri. Mais brusquement, la question se pose, est-ce que tout le monde relève du yichoud, de la foi, de l'unité ? Et la réponse est oui. Plus que ça, c'est-à-dire que l'unité n'est possible que s'il y a tout le monde. C'est-à-dire, si tu exclus une des catégories de juifs de l'identité juive, le Dieu d'Israël ne se manifeste pas. Très important, si vous vous occupez de communauté. Oui. Hein ? Ah, d'où problème. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les tribus. D'où problème. N'est-ce pas ? On a un gros problème. D'accord ? Et donc, en tout cas, ça veut dire une chose très importante, c'est que tous les Juifs sont des Juifs. C'est ça la première signification du schéma Israël. Mais après, ce verset a été dit une deuxième fois. En fait, il a été dit auparavant déjà par Yaakov lui-même. Disait, c'est au moment où il rencontre Yosef. Yosef pleure sur l'épaule de son père, et son père, qui est sur son épaule, ne pleure pas. D'accord ? Que dit Rashi ? Parce que c'était le moment de lire le schéma. C'est-à-dire, au moment de rencontrer Yosef, Yaakov était en train de lire le schéma, donc il ne pouvait pas pleurer. Et là, vous apprenez une chose importante, on n'a pas le droit de pleurer quand on fait le schéma. Mais, quelque chose qui n'est pas clair. C'était quoi le schéma qu'il faisait ? À part ça, si c'était l'heure du schéma, ça veut dire que c'était le moment soit de l'aube, soit du soir. Si c'est le moment de faire le schéma, Yosef aussi doit faire le schéma. Alors Yosef aussi doit faire le schéma. Comment ça il avait déjà fait ? Ça veut dire que c'est le moment était déjà arrivé et que Yaakov n'avait pas encore fait le schéma ? Ça n'est pas de vous. Il est évident qu'au moment où arrive le schéma, Yaakov le fait. Hein ? Non, mais ça, c'est si on ne l'a pas fait, mais a priori, il faut le faire au moment où ça arrive. Donc, c'est ça qui ne tient pas debout. Pourquoi est-ce que Yaakov faisait le schéma ? À part ça, ce que je ne comprends pas très bien, ça voudrait dire que Yosef était sorti à sa rencontre soit pendant la nuit, si on a dit que c'était pendant l'aube. Comment est-ce que Yosef prend son char pendant la nuit ? Ce n'est pas très prudent. Et pourquoi est-ce qu'il aurait. Et si c'était au moment du soir, alors ça veut dire qu'il a rencontré son père dans l'obscurité, ce qui ne tient pas debout non plus. Mais non, je vais vous dire une chose très simple. Quand est-ce qu'on doit lire le schéma ? La Torah nous dit, Beshor Becha, Ukumecha, lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves. Il y a un autre moment dans la vie où on dit le schéma, au moment de mourir. N'est-ce pas ? Au moment de mourir, on dit le schéma. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de se coucher. C'est ça ? D'accord ? Maintenant, si c'est vrai ce que je dis là, ça veut dire qu'il y a un autre moment où il faut faire le schéma aussi, quand on ressuscite. Quand on ressuscite. Si au moment de mourir, ça correspond à Beshor Becha, on fait le schéma, ça veut dire qu'au moment de ressusciter, quand on ressuscite, il faut faire aussi le schéma. Donc rappelez-vous de ça, lors de la résurrection, n'oubliez pas. Parce qu'il y aura beaucoup de monde, donc je ne serai pas là pour vous. Je ne pourrai pas m'occuper de chacun personnellement. Et donc, n'oubliez pas de faire le schéma au moment de la résurrection. Oui, maintenant, pour Yaakov, ce qui s'est passé lorsqu'il voit Yosef, pour lui, c'est la résurrection des morts. Donc il fait le schéma. Mais Yosef ! Oui, non, pas du tout. Parce que Yaakov, pensant que Yosef était mort, quand il le voit, pour lui, il ressuscite. Mais Yosef, il se savait vivant. Donc pas besoin de faire le schéma. Vous avez compris ? Oui ? Non, sa Neshama le savait. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas consolé. Oui ? Non. Mais c'est Yaakov qui a ressuscité, pas Yosef.
Et Yaakov, c'est vivant ?
Non. Tant que si Yosef est mort, Yaakov se sent mort. Ben parce que sans Yosef, il n'est pas Israël. C'est pour ça qu'on dit « Vatechir, Roach Israël à Vienne ». Quand ils vont voir Yaakov, après, c'est l'esprit de Israël a ressuscité. Vatechir. Et donc, pour célébrer le fait qu'il est redevenu Israël, il dit « Shema Israël ». Vous avez compris ? Oui, mais c'est ressenti au moment où... Maintenant, pour revenir donc au contexte historique, une autre fois où ça a été... Donc, c'était la troisième fois que le Shema Israël a été récité, c'est lorsque Moshe se sépare du peuple. C'est-à-dire dans le discours de Moshe avant sa disparition, dans le livre de Devarim, il s'adresse au peuple d'Israël et il leur dit « Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad ». Que signifiait le mot « Israël » pour Moshe au moment où il l'a récité ? Le Ham Israël, y compris qui ? Tout le monde sauf lui. C'est ça que ça veut dire. Parce que si je dis à quelqu'un, quelqu'un qui s'appelle par exemple Georges, hein, prenons un exemple, je lui dis écoute Georges. Alors, Georges, c'est certainement pas moi. D'accord ? C'est-à-dire, si Moshe dit écoute Israël, il s'adresse à quelqu'un d'autre, ça veut dire que lui ne fait pas partie de la dénomination Israël. Sinon, il aurait dû dire, écoutons Israël, Nishma Israël. Comment ?
Ça peut être une tournure de phrase, comment ça, par exemple...
Quoi, c'est de la littérature ?
Non, mais par exemple, je ne sais pas, on s'adresse à une... Vous, les Français,
vous êtes... Oui, alors si quelqu'un dit « vous les Français », par exemple, tu sais qui c'est qui disait « vous les Français » ? Napoléon. Oui. Oui, Napoléon avait l'habitude de dire « vous les Français ». Pourquoi ? Parce que lui ne se sentait pas français. C'était un peu corsé. Et donc, non, c'est-à-dire le fait de dire à quelqu'un « vous », vous, ça veut dire « vous autres ». Et donc, si Moshe dit « Shema Israël », c'est-à-dire que lui n'est pas Israël. Alors, qu'est-ce qu'il est ? Il est égyptien, lui. Moshe, vous savez, donc c'est un égyptien. La Torah dit « Ish Mitzri ». Et nulle part, la Torah ne parle de Moshe comme d'un hébreu. Bien qu'il soit d'origine hébraïque, mais d'identité, il est égyptien. Et à tel point que la Torah ne dit jamais son nom hébreu. Il n'est connu que sous son nom égyptien. Moshe. N'est-ce pas ? Comment ? Son nom hébreu, c'est Touvia. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que quand on voulait qu'il revienne à Israël, on lui dit tu viens. Et.
Quoi ?
Béné, certainement pas. Un béné, un béni. Peut-être, mais en tout cas, l'identité de Moshe n'est pas celle d'Israël. Et, il a grandi à l'extérieur. Et comme il grandit de l'extérieur, c'est lui qui est susceptible d'amener la Torah qui vient de l'extérieur. Alors, le souci des béné Israël maintenant, ils se disent tiens, mais celui-là, là, qui nous donne la Torah. Est-ce que c'est au nom du Dieu de nos ancêtres qu'il parle ? Vous vous rappelez le problème ? Pour les béné Israël, ils avaient l'idée que viendrait un jour quelqu'un les sauver d'Égypte pour leur donner le pays de Canaan. Et ça, c'était une tradition qu'ils avaient de leurs ancêtres, de Yaakov, de Yosef, que viendrait un jour quelqu'un qui les ramènerait au pays ancestral. Et Moshe arrive, il les fait sortir d'Égypte, et il leur dit, voilà, c'est moi. Ah, très bien, alors tu nous amènes où ? Ben, je vous amène en Canaan. Ah, au passage, il y a quelque chose. Au Sinaï, on doit prendre un paquet. Vous avez la Torah aussi, en plus. Ah, mais ce n'est pas dans le programme, ça. D'accord ? Vous comprenez ? C'est-à-dire que pour les béné Israël, ils pouvaient se demander, est-ce que ce que Moshe représente, la Torah, ça correspond au caractère du clan Israël ou pas ? Et donc Moshe, pour les rassurer, leur dit, sachez que nous avons le même Dieu. Shema Israël. Hashem Eloheinu Hashem Echad. De même que vous n'avez dans votre cœur que l'unité, je n'ai dans mon cœur que l'unité. Exactement ce qu'on dit des Shevatim. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Moshe nous a révélé en nous disant Shema Israël ? Il nous a expliqué que la Torah concerne tous les Juifs. C'est-à-dire, chez Yaakov, il fallait prouver que tous les Juifs sont des Juifs. Et Moshe était là pour nous expliquer que la Torah, c'est pour tous les Juifs. C'est-à-dire que tous les Juifs sont concernés par la Torah. Mais alors, si c'est vrai ce que je vous dis là, alors pourquoi est-ce que Rashi ne dit pas ça ? Mais pourquoi Rashi préfère dans ce cas-là donner cette interprétation que nous avons dit que ça concerne l'avenir ? Pour une raison très simple, Rashi n'amène comme interprétation que ce qui est encore actuel de son temps. Or, du temps de Rashi, tout le monde sait que tous les Juifs sont des Juifs, et tout le monde sait déjà que la Torah appartient à tous les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, c'est à convaincre les nations. C'est pour ça que Rashi, quand il amène l'interprétation, parle de celle qui reste encore actuelle en tant que projet de son temps. Oui ? Quoi ?
Comment il peut dire dans mon cœur, j'ai l'idée aussi, alors que lui, il n'est pas dans le cœur d'Israël ?
Oui, mais lorsqu'il leur explique justement que cette Torah qui vient à travers lui en tant qu'élément extérieur, eh bien cette Torah, elle concerne tout le monde. Elle fait partie du projet d'Israël.
Lui, il fait partie du peuple ou pas ?
Il s'introduit dans le peuple à travers ça. À travers la Torah. C'est-à-dire, ce qui fait que Moshe entre dans le clan d'Israël, c'est la Torah. Parce qu'au niveau, si tu veux, de son expérience vécue, il ne vivait pas comme les autres.
Déjà, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas parti du peuple d'Israël, qui nous amène un enseignement grand en adéquation avec le peuple d'Israël, qui peut rentrer dans le peuple d'Israël.
C'est le cas de Yitro.
Donc aujourd'hui, ça pourrait être un bon cas. Parce que
non, c'est dans ta question. Pour l'instant, je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit oui. D'accord ? Non, mais il y a quelque chose qu'on amène au peuple d'Israël, et c'est là qu'on devient un guerre. C'est-à-dire, le guerre, c'est celui qui ajoute à l'identité d'Israël quelque chose qui s'y trouve pas. Non, Moshe n'avait pas besoin de se convertir. Exactement. Mais ce que tu dis est vrai que il y a chez le guer le complément de l'identité d'Israël. Par exemple, Rabbi Akiva, qui était un descendant de Guérim, il a accédé à la 50e porte de l'entendement, n'est-ce pas? Hamishim Sha'aribina. Et Moshe Rabbeinu, lui, n'y arrivait pas. Et il y a une raison pour cela, c'est que le peuple d'Israël était descendu, c'est, disons typologiquement, il était descendu à 49 degrés d'impureté en Égypte. Mais il n'était pas descendu au 50e. Et donc, en sortant des 49 degrés d'impureté, nous avons reçu 49 degrés d'intelligence. Mais le 50e, on n'y est pas arrivé. Rabbi Akiva, il vient des nations. Les nations sont dans le 50e. Donc il arrive, il nous donne un supplément. C'est pour ça que les guérim sont appelés dans le livre de Tehilim, Nedivei Amim, les bienfaiteurs des nations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils donnent comme bienfait? Leur identité. Quoi? C'est faux. C'est faux. Je sais d'où on dit ça. Ce que tu dis là est basé sur une mauvaise lecture, mais très courante, d'un texte de Maseret Shabbat. Dans Maseret Shabbat, il est dit que les âmes des guérim qui s'associeraient à Israël étaient présentes au Mont Sinaï. D'accord? C'est ce qui est écrit dans Maseret Shabbat. Non, justement, c'est vraiment le contraire de ce qu'on a l'habitude de dire. Ça veut dire que n'importe qui peut se convertir parce qu'il y a des âmes pour lui qui sont faites pour les gens comme lui et ces âmes étaient déjà au Mont Sinaï. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un vient devant le Beit Din, il dit, voilà, monsieur le rabbin, j'ai fait mon travail, j'ai payé l'inscription au dossier, j'ai passé tout ce qu'il fallait, etc. Et alors, bon, alors le Dayan dit, bon, dans ce cas-là, ça va, on va t'accepter. Il dit, oui, mais monsieur le rabbin, j'ai un problème, j'ai pas d'âme d'Israël. J'ai une âme de Goy, mais pas d'âme d'Israël. T'en fais pas pour ça. On a dans les réservoirs de la Rabbanout, on a des âmes pour toi. Elles étaient au Mont Sinaï. Alors t'en fais pas, on va dévisser l'ancienne. On revisse une autre. T'en fais pas, ça fait pas mal. Et quand tu sors du mikvé, ça s'allume tout seul. D'accord? T'as compris ce que je disais? C'est-à-dire, n'importe qui peut se convertir au judaïsme et sa neshama, il la reçoit. Parce qu'il y en avait au Mont Sinaï. Oui. Ça, c'est aussi possible, mais ce n'est pas le seul cas de figure. D'accord? C'est pour ça que dans la bra qu'on fait le matin, Shelo Asanigoy, qui ne m'a pas emmené en Gilgoul dans un Goy. Il y a une autre interprétation de Shelo Asanigoy, ça veut dire ce n'est pas un Goy qui m'a fait. Je n'ai pas été fait par un goy. Lo asani, goy. Ouais. Comment? J'ai rien compris. J'ai été fait par un juif. Ouais. Lo asani, goy. Ouais. C'est disons, un peu humoristique, n'est-ce pas? Une des choses importantes pour comprendre des choses profondes dans la Torah, il faut avoir une pointe d'humour, n'est-ce pas? D'accord. Bon. Donc, ce que dit Rashi, c'est ce qui reste pour les temps à venir. C'est-à-dire, Hachem et le Nu Hachem Echad. Maintenant, le problème, quand moi je fais la bénédiction, quand je fais moi la lecture du schéma, et je dis schéma Israël, il y a une mitzvah dans la Torah de réciter ce texte. Quand je dis Israël, moi, à qui je m'adresse? À moi-même? Dans ce cas-là, je devrais dire Eshma. Eux tous? Mais personne ne m'écoute. La lecture du schéma, je peux la faire chez moi, tout seul. Ou bien je m'adresse à ceux qui sont avec moi dans la synagogue, c'est ça? Aux anges? Les anges, ils s'appellent Israël. Depuis quand les anges sont Israël? Les anges, c'est pas des juifs. Ils mangent par les harengs. C'est donc pas des juifs. Quoi? T'as déjà vu un ange qui mange de la pkeïla? Bon. Hein? Tu as vu? Non, vrai? Bon, alors, cet Israël auquel moi je m'adresse quand je dis schéma Israël? À moi-même, et dans ce cas, je veux dire Eshma Israël. À part ça, je ne m'appelle pas Israël, moi. Personnellement, je m'appelle Uri, mais. Hein? On est tous appelés Israël. C'est-à-dire que dans ma carte d'identité, je devrais écrire Uri Israël. On dit, dans ce cas-là, on devrait dire Shema Bene Israël. La terre s'appelle Israël. La terre s'appelle Eretz Israël.
On parle à personne.
Mais pourquoi cette personne s'appellerait Israël? Il fallait trouver un nom. Mais pourquoi parler à personne? C'est tout simple. Ma neshama, c'est Israël. C'est-à-dire, ma neshama, elle est déjà Israël. La racine de mon être, elle est déjà Israël. Mais moi, je ne le suis peut-être pas encore. Et donc, je dis à mon Shoresh Neshama, je lui dis, tu sais Israël, Hachem Elohenu, Hachem Echad, nous avons le même Dieu quand même. Je ne suis pas encore Israël, mais je le serai un jour. Donc, c'est parce que vous avez compris, les Béné Israël, les fils de Yaakov, ils disaient, nous faisons partie. Moshe, il dit, je fais partie de vous. Et donc, quand je dis, moi, Shema Israël, je dis à Israël, je fais partie de toi. Oui ? Manishama, elle s'appelle Israël, évidemment. Ah, le nom personnel, c'est pas la Neshama, c'est le Nefesh. D'accord? Et donc je dis à ma Neshama, qui s'appelle, chez les Kabbalistes, on appelle ça Israël Saba, c'est-à-dire la racine de l'être d'Israël, c'est l'Israël l'ancien, comme on dit. Non, c'est pas Saba Israël au dessert, ça n'a rien à voir. Ouais, non, j'ai compris tout de suite, j'ai vu, ça s'est allumé chez toi. Non, mais c'est non. Et donc je m'adresse à cet Israël et je lui dis Hachem Elenu, Hachem Echa. Est-ce que là vous suivez? Bon. Maintenant viendra un temps où si à chaque fois quelqu'un dit à Israël je suis avec toi, et Rashi nous dit Bayom Ahui Hashem Echad Ushmo Echad, dans ce jour toutes les nations reconnaîtront Israël. Donc qui c'est qui dira Shema Israël? Les Goyim, ils diront Shema Israël, ils diront à Israël écoute Israël, Hashem Elohenu Hashem Echad, viendra un temps où ils le diront, n'est-ce pas? Et il y a d'ailleurs une question assez surprenante. Non, ils parleront au peuple d'Israël. C'est à chaque fois, quand on dit Israël, il faut savoir qui c'est qui parle. Si c'est les fils de Yaakov, alors il parle à Yaakov. Si c'est Moshe, il parle au peuple de son temps. Si c'est moi, je parle à la racine d'Israël. Si c'est les Goyim, il parle à tout le peuple d'Israël.
C'est possible de dire si c'est moi, par exemple, je parle à la fois à la Neshama, à la fois ça, à la fois. Non.
C'est trop dur. C'est trop dur de parler à plusieurs personnes à la fois. D'accord? C'est comme par exemple, tu vois, tu arrives dans une foule. Et tu dis Paul. Alors il y a une quinzaine de personnes qui. D'accord. Paul, c'est un exemple. Hein. Ça peut être Pierre, ça peut être également Masoud, bon, ou Yolande. Il y a d'autres possibilités. Les noms propres sont en nombre important. Donc le schéma Israël s'adresse à chaque fois à une autre personne. Il faut savoir à chaque fois ce que ça veut dire. Remarquez une chose. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un disparaît de l'histoire, c'est là que intervient le schéma Israël. Au moment où Yaakov va partir, c'est là qu'on lui dit schéma Israël. Au moment où Moshe va mourir, il dit schéma Israël. Au moment où un individu meurt, il dit schéma Israël. Au moment de se coucher, parce qu'on disparaît de la journée, ou au moment de se lever, quand on disparaît de la nuit, on dit schéma Israël. Et donc viendra le jour où les nations nous diront schéma Israël. Ça veut dire quoi? Nous? Non, c'est eux. Ça veut dire, oui, ça veut dire que viendra un temps où l'humanité cessera d'être des nations. Non, ça veut dire que la séparation de l'humanité en nations, l'identité, le nationalisme aura disparu. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Les nations vont disparaître. Comment? Ça redeviendra des mishpachot. C'est-à-dire, dans la Torah, on parle des groupes humains sous deux termes, soit goyim, soit mishpachot. Comment? Je ne sais pas, je comprends pas. On a étudié le livre de Bereshit, en tout cas, la partie qui concernait la différence entre Mishpachot et Goyim. Vous vous rappelez de ça? Tu me fais retomber en arrière. C'est terrible, je regresse maintenant. Je regresse en me disant à chaque fois, mais est-ce que vraiment j'enseigne comme il faut? Oui? Non, justement pas. Quand on voit ce qui est dit pour Abraham, Vesra des Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation pour que par toi soient bénies toutes les familles de la terre. Comment se fait-il qu'il y ait un anachronisme chez Israël? Tout simplement parce que nous sommes le seul nationalisme à finalité universelle. Donc c'est le seul nationalisme légitime. D'accord? Mais ça, on avait étudié dans la parasha de Lech Lecha. Je ne sais pas si c'est déjà dans ce cours-là. Si, on a disparu de la nuit. C'est-à-dire, il y a deux mondes. Il y a le monde, il y a le monde du jour et le monde de la nuit. Et donc, dans le monde du jour, quand on le quitte, on fait schéma. Le monde de la nuit, quand on le quitte, on fait schéma. D'accord ? C'est un peu schématique, mais c'est comme ça. Revenons à donc schéma Israël, Hachem Elou, Hachem Echad. Petite remarque. Hachem Echad. Il y a quelque chose d'ailleurs que j'ai sauté pour l'instant, c'est Hachem. D'accord ? On a expliqué le schéma Israël. On n'a pas expliqué le Hachem qui est Elohenu. C'est quoi Hachem ? Et ce que je voudrais pour l'instant voir avec vous, c'est le mot Echad. Schéma Israël, Hachem Elou, Hachem Echad. Ça veut dire quoi, Echad ? Ici, ça peut vouloir dire l'Éternel qui est notre Dieu, c'est celui qui est un et pas celui qui n'est pas un. Je reprends. L'Éternel qui est notre Dieu, c'est celui qui est un et pas celui qui n'est pas un. Je vous fais peur peut-être dans cette explication ? Oui ? Ça semble un peu gnostique sur les bords, oui ? Oui, mais qui c'est le Dieu qui n'est pas un ? Hachem, Sheolo, Echad. Oui, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose qui serait divin et qui n'est pas un. C'est quoi? La Torah dit dans la parasha de Kitissa, l'otishtachave el acher, tu ne te prosterneras pas à un autre Dieu. Précisément, à un Dieu autre, le el acher. C'est comme si la Torah reconnaissait l'existence d'un autre Dieu. C'est terrible. Hein? Le dualisme est à notre porte. Hein? Quoi que. Non, parce que ça c'est Elohim Acherim, les autres dieux. Mais El Acher c'est plus que ça. Oui. Ben, je vais vous expliquer ça tout de suite. Il y a une notion intéressante chez les kabbalistes qu'on appelle Sitra Ahara, l'autre côté. C'est-à-dire Dieu nous est connu comme étant le Dieu de la sainteté, de la morale. Et puis il y a l'autre côté, Sitra Ahara, le mal. Or le mal, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de Dieu aussi, évidemment. C'est-à-dire si vous êtes monothéiste, vous êtes obligé d'admettre que le même créateur est l'auteur du bien et du mal. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que si je veux vraiment servir mon créateur, je devrais faire aussi bien le bien que le mal, puisque je veux le connaître. N'est-ce pas ? C'est donc une tentation de dire que l'exigence du monothéisme, c'est de faire le mal. C'est d'ailleurs ce que disaient les sabbatéens quand ils disaient qu'il fallait faire des averot pour découvrir les étincelles de sainteté qui s'y cachaient pour permettre à la Géoula d'arriver plus vite. Chouette. Et donc, effectivement, il faisait pas mal de Averot, il faisait des grosses Averot, justement dans cette intention-là. Et c'est pour ça que nous disons schéma Israël. Qui c'est notre Éternel qui est notre Dieu? C'est celui qui se manifeste dans l'unité. Celui qui ne se manifeste pas dans l'unité, on s'en occupe pas. D'ailleurs, le mot Echad, c'est combien en Gématria? 13. Et le nom de Dieu en Gématria, c'est combien? 26. Quel est le rapport entre 26 et 13? C'est le double, n'est-ce pas ? C'est-à-dire 13, Echad, c'est la moitié de Shema Vaya. C'est-à-dire nous ne le connaissons que dans une moitié. Celle de l'unité, pas celle de la dispersion. Oui, Akadosh Baruch Hu, il est l'auteur de tout. Non, ce n'est pas contraire à ce qu'on pense. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, il est l'auteur du bien et du mal. C'est pour ça qu'on dit Yotzer Or Uvore Chosher, Rosé Shalom Uvore Ra. Ani Hashem Rosé Kol Ele, dit le prophète Yeshayahu, je suis l'auteur du mal aussi. Alors, dans ce cas-là, si c'est tu es l'auteur du mal, alors est-ce qu'il faudrait te connaître à travers le mal? La réponse est non. Oui? Asher Aselcha Amalek, oui, alors? Il manque quelque chose, effectivement. Quoi? Oui, le jour de la disparition d'Amalek, le Shem est entier. C'est tout pour aujourd'hui, Shalom.